Bonsoir à tous, bienvenue sur les ondes de BAF Radio. Après la petite interruption de Pâques, nous retrouverons, comme tous les jeudis soirs, Michel de Poncin pour la chronique de France. Juste avant de commencer, nous souhaitons un excellent départ à Joseph Daes et nous lui disons que ça fait quand même pas mal de temps que nous attendons simplement qu'il s'en aille. On reviendra, je pense, dès demain sur cet heureux départ. En tout cas, ça nous réjouit assez fortement. On espère que le suivant sera un petit peu plus, présent. Alors, nous retrouvons ce soir Michel de Poncin. Je rappelle à nos auditeurs qu'ils peuvent intervenir directement via Skype. Vous avez un petit téléphone sur le site bafouet.com. Vous cliquez dessus, c'est assez simple. Ou alors via email. Michel, bonsoir.
Bonjour.
Alors, le programme de ce soir, immigration choisie, réveil de la Chine et réforme de l'État. Alors, c'est simple, on vous écoute. Alors, l'immigration... Voilà, l'immigration choisie, c'est assez simple, hein, je crois que c'est Sarkozy qui
Oui, c'est assez simple. Disons que c'est utilisé dans beaucoup de pays, l'immigration choisie. Par exemple, le Canada français est assez connu pour cela. Il attire beaucoup de francophones. Et on sait que la francophonie est une diaspora extrêmement importante. Donc, il invite beaucoup de francophones en les sélectionnant. La France, jusqu'à présent, ne faisait pas d'immigration choisie. Et il se trouve que le ministre Sarkozy veut, semble-t-il, lancer l'immigration choisie, ou tout au moins il déclare qu'il veut le lancer, parce qu'on ne sait jamais avec les politiciens français la réalité de leur pensée. Je dois dire que beaucoup de Français ne sont pas tellement favorables à cette question d'immigration choisie, parce que ils pensent que ça ne freinera pas l'immigration non choisie. Donc, ils pensent que ça rajoutera au contraire des couches d'immigrants. Alors, je ne sais pas, l'avenir nous dira ce qu'il en est.
Alors, est-ce que c'est un modèle anglo-saxon, américain, ce type de choses ?
Je crois que cela existe au Canada français, donc là j'en suis sûr. Et en effet, dans beaucoup de pays, je crois qu'aux États-Unis, cela existe. D'ailleurs, j'ai un ami qui voulait chercher à travailler aux États-Unis et qui était français, hein, et français, je dirais, travaillant au noir aux États-Unis. Il a eu beaucoup de mal d'obtenir sa carte de travail, et pour obtenir sa carte de travail, il a fallu que son avocat, justement, le fasse rentrer dans la catégorie des personnes dont l'Amérique a besoin. De sorte, alors je ne sais pas si c'est anglo-saxon, mais en tout cas ça existe non seulement au Canada, mais aux États-Unis, sous une forme, je dois dire, dont je ne connais pas tous les détails, quoi.
Alors oui, effectivement, pour le Canada, en tout cas, je sais qu'en Suisse, on a souvent des représentants de l'ambassade ou du consulat canadien qui patrouillent dans les universités pour trouver des jeunes couples avec un enfant, voilà, à bon niveau universitaire, qui leur offrent une maison, le terrain, enfin, c'est généralement assez généreux. Voilà. Par contre, aux États-Unis, alors, apparemment, ça se passe mal, l'immigration. On a vu les manifestations dernièrement, c'est quand même quelque chose d'assez chaud.
Oui, mais alors, aux États-Unis, c'est très, très compliqué. D'abord, c'est un pays d'immigration, alors que la France, par exemple, n'est pas un pays d'immigration, malgré ce qu'on veut nous faire croire. Donc, aux États-Unis, la tradition est forte. Mais, en plus, vous avez un phénomène aux États-Unis qui est extraordinaire, c'est que la prospérité des États-Unis, vous la connaissez, elle vient de la liberté économique qui fait que le pays s'enrichit sans cesse, et évidemment, il joue le rôle de pouvoir d'attraction d'une façon absolument fabuleuse, en particulier vis-à-vis du Mexique. Mais il ne faut pas oublier que les personnes qui viennent aux États-Unis, à la différence de ce qui se passe en France, ne viennent pas pour bénéficier de l'aide sociale, parce que ils en ont très très peu. Les nouveaux arrivés en ont très peu, ils viennent tous pour travailler et s'intégrer dans le système américain. J'ai un ami qui est professeur à Stanford University, vous savez, une grosse tête de cette université. Il est un jardinier mexicain, il en est très content, et il dit, ce mexicain, il vient d'arriver, ben il travaille dur dans son métier de jardinage, et puis voilà quoi. Donc là, il y a une différence formidable entre ce qui se passe aux États-Unis et ce qui se passe en Europe, et particulièrement en France.
Enfin, en tout cas, en Suisse, on essaie tant bien que mal de nous convaincre que l'immigration est indispensable. Il y a eu un grand rush dans les années 70, comme on dit en Suisse, les années 70, n'est-ce pas ? Parce qu'il y avait un grand apport d'argent, et puis la Suisse se développait énormément à ce moment-là. Et puis on a commencé à nous dire que finalement les autochtones ne voulaient plus faire un certain nombre de travaux et que donc il fallait les confier à des immigrés, ce qui est tout à fait vrai pour la Suisse. Bah, il semblerait qu'aux États-Unis il y ait une véritable concurrence.
Oui, oui, absolument, il y a une concurrence. Les nouveaux arrivants, ben, ils se mettent là où il y a du travail, évidemment, en général. Alors, sauf les nouveaux très, très qualifiés, informaticiens, savants, etc., qui trouvent tout de suite du travail, il y en a d'autres qui font les travaux de base. Il faut pas oublier que la prospérité américaine repose sur énormément de travaux de base, quoi. Services.
On peut le dire, ça repose sur les illégaux essentiellement. En tout cas, toute l'économie de la Californie, si l'immobilier est si bon marché, c'est grâce au travail des illégaux.
Oui, bien sûr, les illégaux travaillent. Ben, je disais tout à l'heure que je connaissais quelqu'un qui avait été illégal pendant 4 ou 5 ans aux États-Unis. Ben, il gagnait tout de même sa vie, hein. Bon, mais d'une façon évidemment bien, bien plus difficile qu'à partir du moment où il a obtenu la carte, je crois que ça s'appelle la carte verte.
La fameuse carte verte.
C'est extrêmement important, mais pour l'avoir, il faut déjà pouvoir payer un avocat. C'est compliqué. Voilà.
Alors bon, effectivement, ça reste un problème. Ensuite, il y a tout le problème du brassage ethnique que certains semblent vraiment regretter ou tout à fait refuser. On a le cas de certaines communautés aux États-Unis ou en Afrique du Sud qui se réunissent pour n'être que les représentants d'une seule race. Généralement, ce sont des blancs qui font ça. Comment appréhender ce type de cinéma? Parce que finalement, aux États-Unis, c'est effectivement l'immigration et le brassage ethnique et culturel qui a fait le pays. Et on trouve maintenant des Texans qui patrouillent le long de la frontière pour essayer de dégommer les types qui passent le mur.
Oui. Alors, vous savez, c'est très complexe. Mais je crois tout de même que le melting pot va continuer à jouer aux États-Unis, d'après mes informations. Hein, donc on peut toujours se tromper. Il y a des personnes qui disent que les Américains vont devenir de plus en plus mexicains, quoi. C'est possible. Je ne crois pas tellement à cause d'un phénomène que malheureusement nous déplorons, nous, en France, à cause d'un phénomène qui est la royauté universelle de la langue anglaise, de sorte que la langue anglaise, qui malheureusement devient une langue quasiment internationale dans tous les pays du monde, encore plus évidemment aux États-Unis, de sorte que dès lors qu'on prend la langue, ben, on prend les habitudes, etc. De sorte que je crois finalement qu'ils n'ont pas tellement d'inquiétude à se faire sous cet angle-là. Je voulais dire concernant la France, il y a un événement extrêmement malheureux, c'est que malheureusement, M. Sarkozy ayant pris ses positions, l'épiscopat français a pris des positions tout à fait contraires, avec des formulations que l'on ne comprend pas très très bien, en mettant en avant la charité, qu'on n'appelle pas d'ailleurs la charité, qu'on appelle la solidarité, ce qui est tout à fait différent, parce que la solidarité c'est un système socialiste et la charité, ben, c'est un système chrétien.
Figurez-vous qu'on a le même problème en Suisse. On a un parti de droite dite dure, n'est-ce pas, qui a demandé une meilleure application de la loi sur l'asile et sur justement l'accueil des étrangers. Et puis on a les églises qui, la main sur le cœur, parlent d'amour. Et on a même eu, pour la première fois, les socialistes au Parlement qui en appelaient aux valeurs de la charité chrétienne. Il faut quand même le faire quand on voit la façon dont ils traitent le christianisme. Alors, il y a, à mon avis, pardon, j'ai un chat dans la gorge. À mon avis, il y a quand même un léger problème. C'est vrai que, en tout cas, pour ce qui est de l'asile politique, on peut pas en discuter. Les gens qui sont dans un pays en guerre méritent, effectivement, c'est un droit. Par contre, pour ce qu'on pourrait appeler l'asile économique, ce genre de choses-là, je sais une conférence des pays africains qui s'est plaint, finalement, du fait que les forces vives quittaient le pays. Finalement, c'est le sang jeune de ces pays-là et leurs chances de développement qui mettent les voiles. Et qu'est-ce qui se passe? Ils finissent chez nous dans les quartiers, c'est un peu le ghetto, en tout cas en Suisse. Ils sont dans des abris militaires qui sont peut-être pas très confortables. Est-ce qu'il y aurait une façon de présenter les choses différemment? Est-ce que c'est finalement qu'un problème de communication? La gauche donne une bonne morale en parlant comme ça d'accueil, alors que finalement l'accueil est médiocre et puis qu'il prétérite les pays qui sont abandonnés par
ces... Alors je dois dire, je ferai deux observations. D'abord, pour ce qui concerne l'asile, je suis bien plus en arrière de la main que vous, parce que avec le droit d'asile, dans tous les pays du monde, et bien finalement l'immigration se répand d'une façon partout, de sorte que je crois que si l'on faisait le droit d'asile, il faudrait que ce soit très restrictif. Je rappelle que lorsque les choses étaient bien organisées, il y a 300 ou 400 ans, c'était le monarque qui donnait asile sur son territoire, mais il faisait extrêmement attention. Et puis il décidait l'asile ou pas l'asile. Bon. Tandis que maintenant, avec le droit d'asile, c'est vraiment l'engouffrement général. Bien. Alors, venons-en. Voilà, c'est vraiment un grand problème. Alors, venons-en au principe de la charité. Je rappellerai, comme je suis partisan de la liberté économique, comme vous le savez, qu'il y a une solution libérale à l'immigration qui est la seule solution, qui est la charité. C'est-à-dire qu'un immigré a le droit de venir sur un territoire s'il a un logement, c'est-à-dire si quelqu'un l'invite dans son logement, et s'il participe aux charges globales, c'est-à-dire qu'il peut payer ou quelqu'un paye pour lui. De sorte que si Monsieur Jacques Lang, par exemple, dans le somptueux appartement de la place des Vosges, et qu'il a depuis qu'il est député, étant un député, brusquement, avec son salaire de professeur, il a eu un magnifique appartement place des Vosges, s'il veut accepter deux immigrants pour partager son appartement, ben ça, c'est la charité. Bon,
c'est
la solidarité, c'est au contraire l'anti-charité, c'est tout à fait le contraire, puisqu'on oblige les gens à accueillir des gens, des personnes qu'ils ne veulent pas forcément accueillir. Donc c'est le contraire de la charité, ça n'a aucun rapport, c'est ce qu'on appelle la solidarité, et c'est sur le plan philosophique, ça ne veut absolument rien dire.
Alors j'ai une grande question, est-ce que ce ne sont pas nous les pays occidentaux qui sommes responsables de la mauvaise situation économique des pays du tiers-monde, et finalement, par voie de conséquence, de l'immigration?
Oui, c'est-à-dire, c'est pas forcément nous, ce sont les socialistes à la fois d'Europe et particulièrement de France, parce qu'en Belgique il y a tout de même moins de socialistes, les socialistes de France conjugués avec les socialistes dirigeants des pays africains qui conduisent à la pauvreté dans ces pays africains, et puis malheureusement on voit ces gigantesques mouvements avec ces personnes qui traversent les déserts pour se faire épingler ou même jeter à la mer, alors que l'Afrique peut nourrir 2 milliards, 3 milliards, 4 milliards d'habitants si elle n'était pas livrée à des dirigeants socialistes corrompus. Tous les pays d'Afrique ont des richesses, c'est absolument incroyable.
Mais alors, si
incroyable,
je vous suis bien, si on allait au fond des choses, on renverserait ce système et on accepterait donc de moins gagner pour que l'Afrique et les pays d'Afrique puissent mieux gagner, finalement garder leur matière première. C'est presque... Oui, bah pour moi je suis assez d'accord avec ça, je veux dire, mais c'est la fin de la forteresse économique occidentale.
Alors on a, et même les économistes, et j'ai écrit dans des articles ou des livres, que l'aide américaine, l'aide de l'État américain à l'agriculture américaine, qui fait que l'agriculture américaine envoie du blé gratuitement en Afrique, eh bien en fait ça conduit les Africains à la pauvreté. Parce que quelles sont les conséquences? La première conséquence, c'est que les paysans africains quittent leurs terres pour aller s'entasser dans les bidonvilles, donc c'est la catastrophe pour eux, puisqu'ils peuvent très bien vivre sur leur terre, ils vont s'entasser dans les bidonvilles, et en plus, au bout d'une génération, on a perdu les cultures traditionnelles, c'est-à-dire on n'est plus soi-même dans sa communauté africaine, on a perdu les cultures traditionnelles, de sorte que le jour où il faudrait revenir cultiver le mil, eh bien on ne pourrait plus cultiver le mil, tout ça parce que on a eu des dons de blé américain. Et lorsque vous regardez la genèse de ces dons de blé américains, et comme les plaines du Middle-West sont extrêmement importantes sur le plan des élections, en fait, c'est pour acheter l'élection du président américain. De sorte que vous arrivez à cette liaison extraordinaire, j'appelle ça, non, cet enchaînement extraordinaire, j'appelle ça des enchaînements, élection du président américain, corruption des agriculteurs américains pour avoir l'élection, pauvreté en Afrique. Bien. Et d'ailleurs, j'ai une phrase que je cite souvent, c'est un empereur romain qui disait « Je regrette d'avoir organisé des distributions de blé parce que la plèbe a oublié comment cultiver le blé ». C'est formidable, cette citation.
Alors finalement, on peut dire que le colonialisme n'est pas mort. C'est un nouveau colonialisme.
Oui, c'est une nouvelle forme, voilà.
Donc on nous balade en nous disant que finalement tous ces pays sont libérés, mais en fait c'est pire qu'avant.
Ça c'est pire qu'avant. J'ai d'ailleurs un exemple tout à fait étonnant qui m'a été donné par quelqu'un qui a fait du bénévolat, vous savez, dans un village africain d'une ancienne colonie française. Et il est bien évident que les personnes qui ont connu la colonisation ne sont plus là. Donc cette personne, qui est une jeune fille, vit au milieu de jeunes Africains, enfin de jeunes jusqu'à des adultes Africains. Eh bien, certains d'entre eux qui n'ont jamais connu la colonisation, mais qui ont simplement entendu leur papa, lui ont dit « mais du temps de la colonisation, c'était bien mieux
».
C'est amusant.
Bien, alors l'immigration, je pense qu'on aura d'autres occasions d'en parler, je crois que le sujet n'est pas fini. En tout cas, ce principe d'immigration choisie, on ne le sent pas vraiment, on n'a pas l'impression qu'il fasse diminuer l'autre immigration, l'immigration qui n'est pas choisie, même qui n'est pas voulue, mal accueillie et mal intégrée. On va passer au réveil de la Chine. Alors c'est une immigration à rebours, finalement. Ils nous envoient absolument personne, mais ils nous envoient des produits en masse et ils envahissent tous les marchés maintenant. Je rappelle juste, en attendant, que nos auditeurs, ceux qui sont à l'écoute de BAF Radio, peuvent intervenir pendant l'émission s'ils le souhaitent, via l'interface de Skype ou par email, évidemment. Alors, je vous écoute, pardon.
Je voulais dire que c'est une chose extrêmement importante, symbolisée par le voyage du président chinois aux États-Unis, qui montre que la Chine revient dans le circuit des nations. Et pour moi, c'est un retour en quelque sorte, parce que il ne faut pas oublier que en 1820-1830, la Chine faisait 20% de l'économie mondiale, ce qui était normal puisqu'elle était à parité technologique avec les Occidentaux et que sa population représentait à peu près 20% de la population mondiale de l'époque. Donc c'était tout à fait normal. Que s'est-il passé depuis? Il s'est passé deux choses essentielles. D'abord que la Chine n'a pas connu les formidables innovations technologiques que l'Occident a commencé, en particulier avec la machine à vapeur et puis ensuite l'acier, le téléphone, etc. Donc elle n'a pas connu ça pendant près de deux siècles. Et deuxièmement, pendant 60 ans, elle a connu la sombre nuit socialiste qui, évidemment, a aggravé encore son retard. De sorte que avec son 1,3 milliard d'habitants, elle était devenue un nain économique. Bon. Alors, il se trouve que les dirigeants chinois brusquement ont compris l'intérêt du capitalisme, et il se trouve que dans la frange côtière de la Chine, et puis ça s'étend progressivement par osmose vers l'intérieur, et bien il se trouve que brusquement il y a une explosion de richesse absolument incroyable, de sorte que il est normal, et il ne faut pas s'en étonner, il est normal que la Chine progressivement retrouve, alors dans quel délai on ne sait pas, la place d'à peu près 20%, puisque la population doit représenter à peu près 20% de la population mondiale. Donc pour moi c'est une évolution historique tout à fait normale. Et alors je surprendrai peut-être nos auditeurs, mais pour moi c'est une chance pour l'Occident, parce que je dirais, cela ouvre, avec le formidable taux de croissance de la Chine, avec ses 7-8%, eh bien c'est un secours considérable pour la croissance mondiale. Et j'ajouterai qu'une grande partie des entreprises européennes, et en particulier françaises, s'appuient sur cet essor de la Chine, puisque énormément d'entreprises ont délocalisé en Chine, de sorte que lorsqu'on se plaint du chômage induit par les produits chinois, eh bien je crois que c'est une plainte injustifiée, parce que en fait c'est tout le contraire, la Chine devient le support de la prospérité mondiale.
Est-ce qu'on est sûr de ça? Parce que quelque part, bon, le gouvernement est quand même ultra-nationaliste, extrêmement fort, sûr de lui, il n'est pas prêt vraiment à traiter aisément avec tout le monde. On l'a vu justement aux États-Unis, les accords attendus n'ont pas été réalisés. Apparemment, la Chine est en position d'imposer ses exigences. Et puis, on a déjà vu l'année passée, l'été passé, les problèmes déjà d'approvisionnement du pétrole. Est-ce qu'il est dit que la Chine va se stabiliser à 20% ou est-ce qu'ils n'ont pas le muscle pour aller beaucoup plus loin?
Alors, d'abord, ils auront les 20% peut-être dans 10 ou 15 ans, on verra bien après. Ensuite, la raréfaction des matières premières, ben moi je trouve que c'est excellent parce que ça conduira à des économies de matières premières, ça conduira à de nouvelles matières premières. D'abord, les recherches pétrolières vont s'accélérer et puis ensuite les recherches pour les autres formes d'énergie s'accéléreront, on trouvera de nouveaux métaux, de nouveaux usages. Moi, ça ne m'effraie pas du tout, ça va au contraire contribuer à la prospérité générale. Plutôt, le vrai problème concernant la Chine, c'est un problème politique, parce que je crois qu'il faut bien distinguer le capitalisme qui se développe, qui crée de la richesse, mais il ne faut pas oublier que cette richesse va être dirigée par un pouvoir totalitaire, sauf s'il évolue, mais actuellement extraordinairement totalitaire. Il ne faut pas oublier que ce pouvoir est également extraordinairement anti-chrétien. Alors, et en plus, ce pouvoir retrouve les réflexes impérialistes de la vieille Chine, puisque actuellement le Tibet, on sait ce qu'ils font, Taïwan, ils menacent sans cesse, et même on vient d'apprendre que c'était eux qui favorisaient la révolution au Népal.
Oui, ça c'est pas une surprise, hein, je veux dire, les derniers maoïstes ça c'est...
Oui, moi je ne savais pas qu'il y avait des maoïstes là, et alors les Indiens doivent être très inquiets, parce que les Indiens, qui est aussi un peuple en plein développement, la Chine est un géant... Alors, évidemment, vous avez un risque militaire éventuel, mais n'oublions pas que nous, en Europe, nous avons un risque bien, bien plus immédiat qui est l'islam. Donc, voilà. La Chine, c'est peut-être pour après-demain, la Chine.
C'est gay. Alors, je continue de rappeler à nos auditeurs qui peuvent intervenir jusqu'avant la fin de l'émission. Donc, le troisième sujet, c'est la réforme de l'État.
Alors, beaucoup de personnes s'agitent en France pour la réforme de l'État. Je dis bien, ils s'agitent, je dirais plus, ils gesticulent pour la réforme de l'État, parce qu'en France, nous avons un État qui est complètement encombré d'organismes, que nous appelons ça les usines à gaz, vous savez. Mmh. Et moi, je dis, il y a des galaxies d'usines à gaz, des galaxies de galaxies d'usines à gaz. À titre d'exemple, on vient de sortir un document de 96 pages qui recense, mais certainement pas d'une façon complète, tous les organismes et toutes les instances qui conseillent le Premier ministre, les ministres, le Président de la République, qui sont des espèces d'organismes, quelquefois avec 100 personnes, qui font des analyses, etc. Chacun, évidemment, fait de l'analyse voisine, recoupe, etc. Bon. Et alors, on s'agite régulièrement depuis 10 ans ou 20 ans pour dire il faut réformer tout ça, et même on a un ministre de la réforme de l'État qui, évidemment, ne réforme rien du tout. Alors, j'ai une thèse que je développe dans mes livres, c'est de dire il faut surtout pas réformer l'État, parce que, d'abord, c'est une tâche impossible, et ensuite, on fait croire que le système est réformable, c'est-à-dire qu'on prolonge ce système abusif. Et je crois que la seule chose véritable à faire, c'est de supprimer des tâches étatiques dont, en Suisse, vous n'avez pas idée du nombre d'organismes ridicules et même odieux que l'on a en France. Il faut les supprimer carrément et continuer à payer les fonctionnaires même s'ils restent là. Parce que je crois que s'ils continuent à travailler et nuisent aux privés qui gênent dans leurs activités de création de richesse, alors que s'ils s'arrêtent de travailler, ben les privés pourront créer de la richesse. Donc, voyez-vous, j'ai une position assez forte à ce sujet.
Oui, mais est-ce que la France est autrement réformable qu'à coup de dynamite? Parce que franchement, c'est un, C'est un énorme
Eh ben
monstre.
Je crois effectivement que vous avez raison. Il faudra de la dynamite, c'est-à-dire ce que j'appelle bien la suppression d'un organisme. Du jour au lendemain, on ferme les bureaux, le contentieux, les bouquins, les statistiques, etc. Parce que chaque organisme, évidemment, génère ses statistiques. Il a des bureaux, il a des employés, bien évidemment. Il y a des frais de réception, il fait des fêtes, etc. Donc il faut vraiment... Par exemple, il y a une chose que j'ai mis en relief très souvent, je crois que... modestement le premier à l'avoir signalé, c'est la création des observatoires, parce que en France, nous avons une fonction publique tout à fait pléthorique, mais il faut croire qu'elle ne faisait pas son travail, qu'elle n'observait rien. Donc maintenant, on crée partout des observatoires, et j'ai la liste d'un certain nombre d'observatoires, mais j'arrive même pas à tous les citer. Eh bien, je sais pas si ça existe en Suisse, mais je sais qu'en Europe, maintenant, ça commence, ces observatoires. Donc, il faut supprimer tous les observatoires.
De temps en temps, ça peut peut-être rendre des services, je sais pas, quelques statistiques pour les journalistes, des fois c'est pratique, non?
Oui, d'accord. Mais je vais vous poser moi-même une question. Est-ce qu'en Suisse, la statistique est nationalisée ou non? Parce qu'en France, la statistique est nationalisée. Il paraît que nous sommes un des seuls pays où c'est nationalisé.
Alors, il y a un office fédéral de la statistique, si vous voulez, qui s'occupe justement de ce qui est fédéral. Et puis, on a des offices cantonaux aussi. Donc,
il y en a tout de même. Donc.
Oui,
on m'a dit que la France était un des seuls pays, donc en Suisse serait tout de même nationalisé.
Oui, parce qu'on a l'INSEE. Ce serait des privés qui font ça et puis ils sont payés, donc c'est peut-être pas forcément aussi.
Ah oui, il y a des privés qui font ça. Ouais. Oui, parce que l'INSEE fait notoirement un travail tout à fait médiocre. Je viens d'ailleurs pour une raison particulière d'éprouver ça pour un travail, une enquête particulière qu'elle fait. Donc ça confirme d'ailleurs que tout organisme nationalisé fait du mauvais travail et donc il faudrait vendre l'INSEE. Si la France se libère, il faudrait vendre l'INSEE.
Eh bien, écoutez, cher Michel, on attend avec vous la chute du mur administratif.
Voilà.
C'est pas pour demain.
Voilà.
On attend en tout cas ça avec beaucoup de curiosité. Évidemment, BAF Radio sera là quand ça se passera. On espère que,
voilà.
Que les théories que j'ai depuis si longtemps auront un jour un écho dans la population en tant qu'en France. Chers auditeurs, voilà. C'est fini pour ce soir. On vous retrouve la semaine prochaine, je pense et j'espère dès mardi, avec sans doute toute l'équipe de BAF Radio, c'est-à-dire vous, Michel, et Roland Richard, si on arrive à remettre la main dessus.
Voilà.
Voilà.
Bonsoir.
Bonsoir, au revoir, merci.